La nouveauté rock française avec Chris.
Bienvenue à toutes et tous dans ce hors-série numéro 10 de la nouveauté rock française sur SLS consacré à Delilah's Dance. Je prononce bien ?
C'est ça, exact.
Alors j'ai le plaisir de recevoir
Philomène, chanteuse du groupe.
Comment tu vas ?
Ça va, bien.
Bien ?
Oui, ça va, tranquillou.
Heureuse ?
Heureuse, oui. Oui, on a des hauts et bas, quoi, de la vie, mais heureuse.
Bon, tant mieux. Je préfère te ressentir ainsi. Bon, côté bio, Delilah's Dance, c'est un quatuor, c'est bien ça ?
C'est ça, oui.
Originaire de ?
De Rouen.
Formé en ?
Formé en 2021. 2021, du coup, ouais.
C'est ouais. Ça. Et il est composé donc de toi, au chant et la guitare ? Non, au chant et au clavier,
chant,
pardon.
Chant, clavier, ouais. Arthur à la basse et au cœur. Clément à guitare, Robin à batterie.
Alors à l'origine du nom du groupe, on trouve l'homme au déhanché censuré en son temps, Tom Jones.
Yes.
Et avec Delilah's. Et puis Delilah's Dance de alors, Mahavishnu Orchestra,
c'est ça.
Bien.
C'est ça, ouais, exact. Voilà.
Bon, en dehors de cette sensibilité que l'on peut ressentir pour le monde fleuri, quand on lit le nom du groupe, comment s'est faite cette rencontre avec ces univers et ces artistes ?
Moi, je voulais faire un projet... à moi et j'ai demandé à des copains avec qui je jouais déjà avec Arthur j'ai réuni Clément et à l'époque Mario le batteur et puis on a commencé à faire des compos qui étaient plus blues un peu rock blues rock funk. Et plus petit à petit, en fait, on s'est dirigé plus sur quelque chose de rock. Et puis, en fait, au fur et à mesure de partager nos influences, partager ce qu'on aimait bien et le fait de jouer ensemble, en fait, on s'est petit à petit dirigé sur du rock prog à la Supertramp, plus avec un peu le son du Wurlitzer hein, de mon clavier qui définissait un peu cet univers là et puis avec l'EP qu'on a sorti, c'est vrai que là on a vraiment finalisé notre style, enfin on a vraiment mis les couleurs qu'on voulait mettre quoi sur notre musique avec l'EP qu'on a sorti.
Mais c'est le fait de connaître Tom Jones ou Mahavishnu Orchestra, comment on en arrive à les croiser c'est dans le cadre d'une soirée, c'est dans le cercle familial, c'est où
Le fait de connaître ces trucs-là ?
Ouais.
C'est un peu la famille, mon père est très fan de rock. Et Clément, hein, surtout Clément, qui est une bibliothèque sur pattes et qui connaît énormément de choses, donc il nous a fait beaucoup découvrir des choses aussi. Après, moi, j'ai toujours baigné là-dedans, donc les années 70, c'est vraiment un truc qu'on écoutait beaucoup à la maison. Donc voilà, après, ouais, c'est nos influences qu'on écoute, on a un peu les mêmes goûts, en fait, tous.
Vous êtes bien trouvés. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Et vous connaissez depuis longtemps, tous les quatre ?
On se connaît depuis le lycée, moi j'étais au lycée avec Clément. Et puis Arthur, je l'ai connu, pareil, c'est les groupes de potes à Rouen, tout le monde se connaît en soi. Donc justement, je jouais avec lui dans un groupe à l'époque. Et puis le conservatoire aussi, je crois. Et puis après Robin, c'est le dernier qui est venu dans le groupe, qui est arrivé dans le groupe. Puis on l'a connu parce qu'on cherchait un batteur et du coup il était intéressé. Et puis voilà.
D'accord.
On a mis une affiche.
Donc Robin il a quitté Kim Possible et puis il est venu avec vous, c'est ça hein.
C'est ça.
C'est ça. Hein. Bon. Quel aurait pu être l'autre nom du groupe si c'était pas Delilah's Dance qui avait été retenu ?
On n'en avait pas. On avait un premier nom, si ça s'appelait Neon Luster, je crois. Et ça ne convenait pas du tout, on n'aimait pas. Et puis c'est Mario, donc l'ancien batteur, qui avait trouvé ce nom-là. Et puis d'un coup, comme ça, c'est sorti. Donc on n'avait pas forcément d'autres idées.
Oui.
C'est lui qui avait trouvé ça. Et puis on s'est dit, oh, c'est cool. Et au fur et à mesure, en fait, ça convenait bien à notre musique, qui était un peu rock disco. Hein. Et puis plus on avançait, plus je me disais, c'est vrai que Delilah's Dance avec la musique qu'on fait, qui est très prog, je sais pas si ça convient bien et tout, mais c'est assez poétique, on va dire. Je trouve que ça reste, donc c'est non, ça nous convient bien en final. C'est vrai que
C'est fleuré aussi. Hein.
Ouais, c'est ça. Je sais pas. Après, j'ai jamais je me suis jamais posé la question en fait. Ça a toujours été ça et puis c'est resté. Du coup, bah voilà quoi.
Alors, côté discographie, on a un premier single en novembre 2022. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Qui s'appelle Romy.
Oui.
Il y a un lien avec Romy Schneider ou pas,
pas
du tout,
tout.
Pas du tout.
Non, c'est parce que je faisais moi quand je chante, quand je compose mes parties de chant, je fais du yaourt. Et du coup, c'était ça qui était revenu. Et
donc c'est Romy, Romy, Romy.
Ouais, c'est juste parce que je chantais des trucs et je disais Romy comme ça au pif et puis c'est resté parce que on trouvait ça cool.
D'accord, ça aurait pu être Rudy Rudy de Kaiser
oui.
Chief, mais là c'était
ah
Romy.
Ah non, pour moi c'était vraiment au hasard comme ça. Hein.
D'accord, donc c'est le hasard, c'est bien.
C'est ça.
Après, il y a eu un deuxième single éponyme en juin 2023. Alors un full sentimental pour l'instrumental, on va dire. Est-ce que vous êtes tous des autodidactes? Est-ce que vous avez suivi des cours tels que le conservatoire?
Alors, Arthur, il a fait le conservatoire donc en CHAM au lycée, collège-lycée, je crois, collège. Clément, il a pris des cours de guitare depuis qu'il est tout petit, et après, enfin, il a bossé comme un malade, quoi, et en cours avec, dans une école, hein, et puis voilà. Moi, j'ai commencé par la guitare, quand j'avais 6 ans, j'ai commencé par la guitare pendant 7 ans. J'ai fait de la basse, j'ai fait beaucoup de cours de piano aussi, et après, à force de jouer avec les groupes dans lesquels j'étais, ça s'est fait tout seul, quoi. Je veux dire, on progresse aussi tout seul à force de jouer, à force d'être avec d'autres gens et tout. Ça permet je sais pas, de progresser. Le fait de jouer ensemble, c'est cool. Et j'étais à Rennes aussi en musicologie et j'ai fait un peu de conservatoire en jazz, basse.
D'accord. Et la musicologie, ça consiste en...
C'est de la théorie musicale, l'histoire de la musique, travailler beaucoup son oreille et sa sensibilité. Et puis voilà, beaucoup d'histoire de la musique en soi. Hein. Et des cours de chœur aussi, beaucoup.
D'accord. Ensuite, quand on voit tout ça, effectivement, on peut deviner éventuellement le nom de l'album qui est sorti en novembre 2023, une mosaïque. Est-ce que c'est un condensé de tout ça ou c'est le côté un peu kaléidoscope?
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Mosaïque, on n'arrivait pas trop à mettre de mots sur ce qu'on faisait. On fait du rock progressif, mais il y a plein de styles différents, des petits trucs qui se... Ils sont mis bout à bout en fait dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de pop en fait, il y a du jazz, et chaque morceau est assez différent, je trouve. Par exemple, si on prend mon Romy, c'est un truc, c'est vraiment le morceau pop, mais quand on a sorti Romy, quand on a sorti Daily Last Dance, c'est deux morceaux qui n'ont rien à voir. Ça aurait pu être deux morceaux de deux groupes différents en fait. Et on a composé tous ces morceaux ensemble et c'est vrai qu'on trouvait qu'il y avait tellement de styles différents dans ce qu'on faisait. C'est tout Clément qui me disait ça. Et puis, d'où le nom, en fait, tout simplement. Ça illustre, en fait, la musique qu'on fait et les influences qu'on peut mettre dans notre musique, quoi.
D'accord. Donc, quelque part, c'est de la fusion, mais en même temps, c'est l'explosion aussi, parce que fusion, on va dire, ça, on recentre. On mélange, mais en même temps, il y a un côté, bon, on verra après, il y a un côté assez explosif aussi dans ce que vous faites, et imprévu aussi également, hein, fait que ça monte, ça descend, ça part dans tous les sens. C'est même déstabilisant parfois. Mais pour autant, c'en est fascinant, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver, la note suivante, on va dire. Donc, retour aux affaires en 2025, on va dire, un an et demi après quasiment.
Ouais.
Donc là, on a un premier single récemment, enfin qui est un nouveau single qui est sorti, c'était Boyish Lying Skills en février 2025, puis un second single, Dancing Winter, en mars 2025. Et enfin, premier EP, deuxième opus, Pen au metteur le 25 avril 2025. Il y a une release party qui a été faite.
Au quartier libre de Rouen, ouais.
D'accord, ça s'est bien passé?
Oui, c'était bien.
Chaud d'ambiance?
Oui, 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 les gens étaient chauds, c'était cool, franchement, c'était bien, kiffé.
Alors, Pen au metteur, ça c'est le nom de l'EP, un très joli nom d'ailleurs. Il y a de l'explosivité, du sensationnel orchestral dans cet ouvrage, avec des vrilles, des loopings, des changements de voix et de voix. C'est électrique comme du Like Orchestra, un peu de wind dans le ventilo, la faveur d'un piano énergique façon Christopher Cross, lumineux comme du Supertramp. C'est une échelle de la peine où l'on monte et on descend. Finalement, cet EP, c'est de la peine ou c'est de la joie?
C'est de la peine.
C'est de la peine?
Ouais, il y a très peu de joie dans ce qu'on écrit. Ouais, non, c'est... Ça parle de plus ou moins de ce que je vis, ce que j'ai vécu, des peines que j'ai, des histoires que je qui se passent dans ma vie. Je pense que si ça serait des trucs vraiment joyeux, on n'aurait pas trop d'inspiration. Ouais. Et oui. C'est Clément qui écrit les textes, en fait. C'est moi qui lui raconte ma vie, et du coup, il en fait, des paroles.
D'accord, effectivement, on est plus inspiré quand on a de la peine.
C'est mon avis, ouais.
Oui, la joie, en fait, ça intéresse personne quelque part.
Ah,
c'est ça,
si,
hein.
Sûrement, mais nous, moi, la joie, je suis pas inspiré, moi, quand je suis heureuse. Donc, enfin, je suis pas malheureuse, hein, c'est juste que c'est vrai que quand il se passe des choses qui sont, oui, des choses tristes dans ma vie, je suis plus. Ça me touche plus, en fait, et du coup, ça me permet d'évacuer, de sortir mon imagination, en fait. Ouais. Généralement, quand je compose, d'ailleurs, c'est souvent quand, enfin voilà, j'ai un truc à dire, quoi. Il faut que ça sorte d'une autre manière que de parler. C'est la musique, quoi, qui fait ressentir ça, quoi.
D'accord. Donc finalement, on retient pas forcément ses émotions et puis on écrit. Cet EP, il provient d'une écriture plutôt spontanée, comme si c'était apparu comme une évidence.
Pour l'écriture, les paroles ou la musique?
Lire les deux, ou l'un et l'autre, si on peut le peut-être l'expliquer différemment.
Quand je compose, quand les morceaux on les joue, etc. On est très c'est très spontané, ça va vite, tout va vite, on se comprend vachement, on arrive à, en fait on a vraiment une méthode de travail qui est assez efficace, en plus ou moins, enfin en tout cas qui marche bien ensemble. Et c'est moi qui compose le squelette du morceau, quoi. Les gars vont arranger derrière, ça a toujours été comme ça, et ça marche bien comme ça. Oui, c'est vrai que c'est l'autoroute tout le temps. On prend très peu de, enfin comment dire, comment je pourrais dire ça.
De détours, c'est direct.
Ouais, c'est ça. Ça prend pas vraiment, ça prend pas longtemps à se mettre en place, quoi. Un morceau, généralement, en plus, on l'arrange en une répète, quoi. C'est assez... ça va vite, quoi. Mais ça, c'est cool.
Productif, alors.
Ouais, on se comprend super bien, en fait.
Ah, c'est bien. On gagne du temps, ou je sais pas comment...
Ouais, on gagne du temps.
On gagne du temps. Bon, quand d'autres, on perd. Il y a des groupes, parfois, qui mettent des années, hein, pour faire quelque chose. Donc, cet EP, il vous déchaîne. C'est un exutoire, en quelque sorte. Selon notre ressenti, il exprime toujours autant votre sensibilité instrumentale qui occupe une partie importante dans vos titres. Y a-t-il un instrument qui guide davantage les autres, notamment au moment de l'écriture? Pour autant, on a quand même l'impression que la voix est davantage présente sur cette EP que sur les précédentes créations.
Alors pour l'instru, oui, le piano, hein, c'est la base du morceau, c'est la base de la composition, donc ça permet de guider les autres. Et ça, c'est très important qu'il soit mis en avant, parce que c'est pas forcément l'instrument qui est mis en avant, mais c'est vraiment nécessaire, en fait, pour les gars, pour qu'ils puissent arranger.
Ouais.
On a besoin d'une base, et la base, c'est le piano. Donc je peux dire que oui, effectivement, le synthé, c'est l'instrument le plus important, en tout cas pour la composition et pour tout mettre en place, quoi. Ça tient un peu le bateau, quoi.
Tu commences, en fait, au piano à écrire ou à composer. Et
ça.
Après, le reste suit.
Ouais, piano-chant. Ouais,
piano-chant.
Ça. Et les gars, après, arrangent tout. Enfin, à leur manière, on en discute.
Et comment on arrive à doser, en fait, cette répartition sur un titre? Parce que dans vos titres, parfois, on attend la voix ou elle arrive tout au début. En fait, il n'y a pas forcément de règles. Comment on arrive à doser, sachant que dans ce nouvel EP, je trouve qu'en proportion du temps des titres, il y a davantage de voix posées. Comment on arrive à doser la voix sur la partie instrumentale? Comment on sait qu'il faut chanter une minute, par exemple, et pas 30 secondes ou 2 minutes? Comment on y arrive
Tu poses la question à tout le monde, parce que...
Non, c'est que pour des liens.
Oh la vache, je sais pas, c'est naturel, quoi. Enfin, je vous passe pas la question. Il y a des moments où, je sais pas, pour moi c'est évident qu'il y a de la voix. C'est à ce moment-là précis, et puis pendant 2 minutes, il peut, enfin peut-être pas 2 minutes, j'exagère, mais je veux dire pendant 1 minute, il peut avoir un morceau, enfin un moment où il y a vraiment que de l'instru et tout, et ça me paraît En fait, on fait de la musique aussi qui est complexe, plus ou moins. Mmh. Je veux dire, il y a plein de parties tout le temps qui changent, etc. Donc forcément, le fait de doser la voix, c'est, ça prend plus son sens là-dessus, en fait. On doit, de toute façon, pas que la voix, on doit tout doser, en fait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est très peu posé, en fait. Enfin, c'est posé dans un certain sens, mais on fait pas n'importe quoi. Mais tout doit être dosé, de l'intensité doit être dosée, les détails doivent être travaillés le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de choses dans l'instru, naturellement en fait la voix elle va être présente quand ça appelle à ça, donc je pourrais pas t'expliquer, mais en tout cas D'accord. c'est juste...
Il n'y a pas de... on ne dit pas par exemple là il y a trop de chants, on réduit, non c'est comme ça, ça paraît évident par
c'est
rapport
très, au titre. Ouais, c'est très rare qu'on se dise... qu'on se dise là il n'y a pas de chant, là il y en a trop, etc. Généralement c'est assez logique et dès le départ d'ailleurs.
Alors dans ce combo parce qu'effectivement il y a quand même une puissance orchestrale notamment en live et puis effectivement aussi à l'écoute, puisque tu es au chant, tu occupes une position centrale, notamment soit de position de scène, tu n'es pas à droite ou à gauche, tu es plutôt au centre. Est-ce que c'est toi finalement qui te donne le là? Est-ce que tu te définis comme un chef d'orchestre?
Sur scène, pas forcément. J'ai pas envie non plus de le faire. Alors oui, bon, déjà le fait que je sois une femme au milieu des gars, enfin je veux dire, c'est... voilà. Et que je suis au milieu, c'est normal, je chante, etc. Mais je trouve pas, non. En répète, oui, un petit peu, parce que c'est moi qui leur propose la musique. Donc c'est forcément moi qui va les guider. Après, ils sont trop forts aussi. Genre, je leur fais un truc et puis c'est bon, ils ont capté. Tout va très vite, comme je te disais. Donc ils comprennent très vite où je veux en venir. Et du coup, après, bah... pour la scène, je dirais que beaucoup Arthur, en vrai. Arthur, il a un talent aussi pour je sais pas comment dire, hein. C'est compliqué de mettre des mots là-dessus, pour guider notamment la batterie, pour Robin, pour l'aider aussi, pour l'aiguiller, parce qu'en plus il est là depuis pas longtemps. Après sur scène, non, je trouve pas que j'ai un rôle de leader, enfin ouais. Leader, oui, dans le groupe c'est sûr, mais après en sur scène pas forcément. Je crois qu'on est tous à peu près équilibrés, tous à la même place, une équipe, c'est ça.
Bon, premier titre de cette EP, Boyish Lying Skills. Alors c'est un titre fabuleux, speed, jouissif, tonique, explosif, avec une intensité proche de The Who, avec ce frisson qui va crescendo en début de titre comme si on avait réactivé Won't Get Full Again, et cette approche de thème aussi, alors cette sensation de thème de Mission Impossible, je sais pas si d'autres effectivement m'ont fait la remarque. Alors sommes-nous dans cette idée d'urgence, de temps qui court, qui se consume comme la mèche de cette fameuse série, où, et cette femme justement a-t-elle réussi sa mission d'arriver à ses fins dans ce très beau clip?
Oui, bah c'est un morceau qui est vraiment à part entière des autres, je trouve, et que c'est vraiment une autoroute de A à Z. Et je crois que c'est le premier morceau qu'on fait où c'est vraiment une autoroute et que ça s'arrête pas et que c'est vraiment la même énergie. Ce qui traduit effectivement le sujet principal du morceau, qui est la haine que j'ai pu avoir pour le personnage du... le sujet du texte, quoi.
Ouais.
Ouais, je sais pas trop quoi dire. Je trouve que c'était important aussi d'avoir une voix qui était en plein poumon de A à Z, parce que c'était un peu toute la colère que je voulais sortir. Et puis, on a illustré ça avec le clip et ça a bien marché, quoi.
Pour le coup, la mission est réussie.
Oui, c'est ça, elle l'est.
Alors, sans jeu de mots. Évidemment, mais ce titre ici, non pas le retour de Daily Last Dance, mais bien une rupture, quelque part peut-être, avec les précédents titres. Il est clairement une mise en bouche qui présente le potentiel du groupe qui est énorme. Il y a aussi une particularité dans l'entame de ce titre. On a l'impression que c'est comme si on mettait la radio et c'était une dépêche AFP. Les premières notes, c'est une volonté, il y a un réglage de son, de radio...
Ah oui, les trucs au synthé là, ouais. Du début. Non, enfin c'était une volonté de, parce qu'on a quand on compose, pas quand on compose, il y a un cinquième membre dans le groupe de temps en temps qui est là et il s'appelle Tobias et il fait du synthé analogique de temps en temps et puis en fait on, tout simplement il n'y a pas forcément de vouloir, enfin besoin de mettre ça parce que pour une raison précise, c'est juste qu'on avait envie de faire une introduction. Parce que c'est ce qu'on fait aussi sur nos lives, on introduit notre set avec des samples, etc. Et on avait envie de faire ça, de le garder, ce truc là, cette idée là sur l'EP, et c'est Tobias qui a bidouillé des synthés, ça a donné espèce de d'introduction en fait à ce morceau qui introduit aussi tout l'EP en fait, finalement la même occasion quoi.
Bon, en tout cas ce titre il est savamment réussi, le clip aussi, donc c'est très ludique, c'est pas joyeux mais c'est très ludique, c'est aussi une belle vitrine quand même pour le groupe. Autre titre on va dire différent, Gypsophila, je prononce bien
Gypsophilia, ouais,
Philia pardon. Ce titre il dégage un parfum fleuri mais aussi très enjoué façon The Queen, avec des airs un parfum planant et volant comme The Wings, sans faire le lien avec les racines du groupe, remontant au nom du groupe. D'où vient cette attirance pour les fleurs notamment avec ce titre?
Fallait un titre, j'ai pas franchement les fleurs. Bon, non, c'est pas ma grande passion, j'aime beaucoup, mais. J'avais vu ce truc là de Gypsophilia, je crois que c'est vraiment une fleur, hein, du coup. Et il y avait une petite description quand j'avais vu ça, comme quoi c'était. Ça pourrait traduire aussi le. Enfin, ça pourrait illustrer le brouillard, le. Tu vois, ce genre de truc.
Un brouillard fleuri.
Ouais, c'est ça. C'est du beau et en même temps
du
pas beau. Ouais, c'est ça. Une espèce de flou, en fait. Et je trouve que ce morceau, en fait, justement, c'est vraiment... Si rien ne revient, très peu... Enfin, je crois qu'il n'y a aucun thème qui revient. C'est vraiment... Pareil, c'est chaque partie est enchaînée, quoi. Et il n'y a vraiment aucun thème qui revient. Et du coup, c'est bien que ça illustre ce nom-là illustre vraiment la chanson, parce que ça illustre vraiment un brouillard, un peu un flou, on sait pas trop où on va. Et du coup, bah d'où ce nom-là. Et je trouvais que juste le nom Gypsophilia, je trouvais ça cool. Et il y a Philia, Philo, voilà, je me suis dit que c'était cool.
Ah, ça vient ça. Bon, ça fait musicologie, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Bon, ça c'est parfait. Alors finalement, on voit bien qu'on est troublé, et puis quelque part, on est emmené à droite, à gauche, et puis on se perd dans cette brume de Les Last Dance. Autre titre, Dancing Water. Ce titre est un fluide enchanteur avec son lot de métaphores et de paradoxes troublants. On voyage en eau trouble. Sur l'eau, ici, alors si l'eau ici fait danser, l'alcool lui fait déchanter. L'alcool, c'est le mal à petite dose.
Ouais, on peut dire ça, ouais.
Oui. Et alors, il y a un début qui ondule, comme le clavier, je trouve, de Jean-Michel Jarre, jadis entre Equinox et Boston. Il nous anime avec une certaine vision de féerie des eaux, hein, ce titre, et à la forme d'un mini-opéra, avec une aura symphonique, et avoir effectivement la belle session live, d'ailleurs, de ce titre. Qui est très très belle, avec cette boule à facettes d'ailleurs qu'on en a une juste ici. Si tu devais choisir un endroit particulier où jouer hors d'une salle de concert, cela serait où?
Honnêtement, chez moi.
Chez toi?
Chez moi, où on répète où on répète dans mon stud. Je pense que c'est... j'ai pas forcément d'endroit en tête, mais je pense que celui-là, on y tient, c'est important pour nous, on aime bien cet endroit, on s'y sent bien. Et je pense que ça serait juste le commencement de tout, ça serait chez moi.
Donc c'est pas un flanc de montagne, c'est pas une barge, c'est pas au bord d'une cascade, non?
Non, vraiment pas.
D'accord.
Non.
C'est très bien, très bien. Donc finalement, la densité maximale, elle relève quelque part d'un noyau.
Ouais.
Et c'est là que tout se passe, en fait. Hein, c'est un peu le laboratoire de Daily Last Dance.
Exactement.
Les éléments naturels, la terre, le vent, le feu et le boogie-woogie, on va dire, non, on va dire l'eau plutôt, sont des composantes de l'inspiration du groupe ou pas?
Alors, tu peux répéter la question, j'ai pas compris.
Les éléments naturels, la terre, le vent, le feu et le boogie-woogie, non. L'eau, sont-ils des composantes dans l'inspiration du groupe?
Non.
Du tout?
Pas du tout, non.
Donc on est complètement décorrélé de, je dis pas de l'écologie, mais des éléments naturels, c'est pas une source
pas
d'inspiration.
Vraiment pas.
Très bien.
C'est le hasard.
Est-ce qu'il vous est venu l'idée de créer un opéra, voire une comédie musicale?
Oui, un petit peu trop expressif. Non, c'est plus tard, oui, Arthur. Pardon. Arthur voudrait faire un espèce de Tommy Bis, espèce de d'histoire, un album qui serait une histoire, comme le Tommy des Who, quoi.
Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs, en fait, dans ce titre d'ailleurs, notamment, il y a plusieurs tableaux hein, qui peuvent être imaginés à la fois quand on l'écoute ou quand on crée ce titre. Mais effectivement, on a cette impression que vous avez peut-être un avenir de ce côté-là, côté comédie musicale, théâtre, parce qu'il y a vraiment une forte... la création est très explosive et vaste, c'est ça. Hein. Bon. Autre titre, le dernier titre de quatrième piste, I Wasn't Done for the Pearly Gates, je prononce
Pearly
bien.
Pearly Gates, oh, ouais.
Je fais des progrès.
Oh, c'est bien, c'est ça.
Un titre fleuve du répertoire de Daily Last Dance, une perle et une expérience immersive dans la dimension de Daily Last Dance. On décolle, on plane, il y a des effets qui nous transportent à la fois dans une certaine ivresse de profondeur, mais aussi dans des contrées interstellaires, je trouve. On ne sait pas s'il faut mettre un scaphandre de plongeur marin ou une combinaison d'astronautes. Quand on écoute ce titre, en même temps, ce titre il porte un peu sur le destin de nos vies, des vôtres, je pense. À la fin, c'est finalement l'enfer ou c'est le paradis ?
L'enfer.
C'est l'enfer.
La fin du monde, c'est l'apocalypse. Ouais, c'est ça. C'est un chemin vers l'enfer, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment ça en fait. Si on pourrait l'imager, c'est quelqu'un juste qui se rend compte qu'il est en enfer, enfin qu'il ne se rend pas compte tout de suite, mais au fur et à mesure du morceau, ça commence on commence à prendre conscience de où on est, quoi. Et puis à la fin, c'est vraiment l'explosion du mal, quoi, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça.
Il y a une métaphore derrière ?
Non.
Non.
Non, pas forcément, non, non, je crois pas.
Alors soyons quand même positifs, ce titre, c'est une perle. Comment on s'y prend pour parvenir à créer un monument de 10 minutes ?
Comment j'ai fait ça ? J'ai commencé par... Je suis dans mon truc, donc... J'ai commencé par du coup le début, hein. De toute façon le début, donc où c'était où c'est une espèce de grosse instru, avec une métrique très complexe quand même, où ça doit être c'est très timé, c'est tout le monde je fais la même chose et je voulais en fait faire quelque chose un peu comme ça, un peu très musique classique un peu, hein, ça fait un peu ça. Hein. Au début, plus ou moins, hein, mais c'est le fait de jouer tous ces trucs-là, qu'il y ait beaucoup de changements d'accords, que ça soit assez compliqué à jouer. Parfois, on y arrive, on se trompe souvent, hein, c'est pas facile. Je peux pas te dire exactement, genre, juste, j'avais envie de faire un truc comme ça, on a fait ça, et après, pour la suite, je sais pas.
Alors voilà. Justement, tu parlais de cette complexité, et c'est parce que 10 minutes, il faut les placer, hein, surtout des fois quand on a juste que 30 minutes pour jouer. Comment ça se passe pour placer ce titre dans un set, parce que à tous les concerts, on ne doit pas forcément l'entendre. Comment on fait ?
Pour placer ce...
Ce titre dans un set, oui.
Bah, c'est à la fin du set. C'est à la fin du concert, on fait ce truc-là parce que tu vois, c'est pas un morceau qu'on peut faire au début de set ou au milieu de set parce que ça endormirait les gens, hein, ou ça casserait complètement le truc. Et on essaie de quand même d'avoir une certaine cohérence entre nos morceaux quand on joue. Et la fin, c'est vraiment le morceau qui dure 10 minutes. Donc puis c'est un morceau qui est dense, il y a énormément de choses. Ça peut plomber aussi parfois, mais c'est notre signature, hein, du groupe. C'est le morceau signature de Daily Last Dance. Et du coup, bah, on le met à la fin parce que bah, c'est l'apogée du live, quoi.
Alors, comme anecdote, hein, je vais la placer là. The Pearly Gates, un groupe qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, qui vient de Toulon. Je ne sais pas si tu connais. Et est-ce que tu crois au hasard ou pas ?
Au hasard ?
Oui.
Est-ce que je crois au hasard ? Oui.
Oui ?
Oui.
D'accord. Peut-être qu'éventuellement, ce groupe, il va croiser votre chemin sur un plateau. C'est un groupe de psyché. Ce titre, il est impressionnant, hein, quand même, hein, notamment avec ce clavier qui résonne comme un orgue. et il pourrait accompagner une bande de son d'une série. Alors il fait penser un peu à l'univers de Lars von Trier, avec l'hôpital et ses fantômes, avec cette dimension dramatique, mais aussi à Shining avec ses rires. On entend des rires dans le titre, peut-être dans les couloirs de l'hôtel du Grand Nord ou dans le temps qui passe. Peut-on dire que ce titre est le quart d'heure de folie de Daily Last Dance, car il semble y avoir une part de folie, voire de démence créative?
Ouais, bah oui, c'est sûr. Il y a quand même un gros moment en fait, entre le début où on doit vraiment se concentrer et la fin où on se lâche. Il y a vraiment tout un milieu qui est une espèce de vague progressive à la Pink Floyd là. Et nous, je pense que ça nous met un peu dans une espèce de transe aussi quand on joue ce truc-là. Ce qui est différent des morceaux qu'on a l'habitude de jouer, Dancing Water, tout ça, parce que c'est des trucs où il faut être vraiment concentré aussi de A à Z. On peut pas trop se laisser aller, pas comme on fait par exemple sur ce morceau-là, parce que c'est toujours complexe. Hein, mais c'est plus ambiant. Il y a plus d'ambiance, il y a plus de douceur, il y a plus de, le tempo est plus lent, etc. Donc ça nous permet aussi de nous évader dans notre musique, donc je pense que c'est ce morceau-là qui peut nous faire procurer le plus de trucs, je pense, quand on la joue en tout cas.
Alors, concert en côté live, vous avez une dimension qui est impressionnante, pour l'avoir partagé en termes d'impression avec d'autres personnes, effectivement, on vous remarque. Donc effectivement, on a hâte après effectivement de découvrir les créations qui s'en suivent, notamment avec cet EP Panometer qui est sorti fin avril. Alors je vous ai découvert un beau soir au pop-up du label il n'y a pas très longtemps. J'ai adoré ce soin évident, cette implication et surtout cette application à vous investir dans votre jeu de scène et dans l'utilisation de vos instruments. Le live, c'est la délivrance.
Ça dépend pour qui. Arthur, il est fait pour faire du live, lui. Il est à fond dans son truc. Clément, moins. Ça dépend en fait. On a tous on aime faire du live, mais on l'exprime tous d'une certaine manière. Et Arthur l'exprime vraiment. On le voit qu'il kiffe quoi. Clément, on sait qu'il aime, mais genre par exemple, il est très plus réservé, plus dans son truc. C'est une question de personnalité aussi en fait. Ça dépend. Même Robin, je sais pas trop. Et moi, ça dépend. Ça dépend des fois. C'est une liberté, mais en même temps c'est ce qu'on, même des fois j'ai du mal à faire, enfin je me trompe parfois, souvent sur des morceaux, j'oublie des parties, enfin c'est parce qu'on fait beaucoup de choses dans un morceau et du coup on arrive à vraiment se lâcher, vraiment lâcher prise quoi, mais pas entièrement parce qu'il faut quand même se concentrer beaucoup et du coup
et une idée, enfin une durée idéale de scène, ça serait combien pour les Last Dance?
Je pense 45 minutes, ouais, bon, pour les gens en tout cas.
Donc c'est les programmateurs de ça nous écoutent, c'est 45 minutes minimum pour bien faire.
Minimum, après voilà, on a déjà fait des sets d'une heure etc, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop moi je trouve, même si on essaie vraiment d'organiser le set avec des moments où ça va être vraiment on envoie la sauce dès le début, avec un moment d'intro où je suis toute seule au chant, où voilà, on essaie de faire des vagues en fonction des musiques pour pas trop en fait bousculer tout le monde. Pour un public, je me mets à la place d'un public, ça doit être des fois compliqué de nous suivre. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire un set qui est à peu près écoutable aussi.
Bien sûr, mais il l'est d'ailleurs. Hein. Alors si on remontait le temps et que vous deviez choisir d'aller à l'un ou l'autre de ces deux grands festivals mythiques, vous iriez sur l'île de Wight comme Jefferson Airplane pour la première édition en 68, ou plutôt à Woodstock, plutôt côté Bethel aux États-Unis.
Ouais, Woodstock, hein.
Woodstock, directement.
Ah ouais, bah ouais.
D'accord. Bon, le festival, c'est bien.
Oui.
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 C'est mieux. C'est mieux qu'une salle de concert classique underground.
J'en ai pas assez fait pour te dire, mais j'aimerais beaucoup justement qu'on en fasse plus. Mais oui. Je pense que l'ambiance c'est pas la même. Les gens, pareil aussi, sont pas dans le même mood, dans le même état d'esprit. Plus de lâcher prise, à mon avis, pour tout le monde.
Oui.
Et l'esprit, le fait de, ouais, je sais pas, le fait de jouer avec plein de gens aussi, tout n'est pas centré aussi sur toi, sur un groupe.
Ouais.
Du coup, j'aime bien cet esprit aussi de diversité, de ouf. Mais je pourrais pas te dire exactement parce que j'en ai pas tant fait que ça des festivals. Mais oui, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'ambiance.
En tout
l'ambiance.
Cas, on a dit l'île de Wight, non, on a dit Woodstock, hein, c'est oui, ça, oui. Woodstock. Bon, vous serez prochainement au concert au Supersonic, le 8 août 2025, et vous êtes également à l'affiche du festival Aerolive, qui débute le 6 juin 2025 à Vermont, et qui se termine le 27 septembre à Mézet. C'est un festival itinérant qui sillonne la Normandie, une dizaine de dates sont prévues, alors on a hâte d'y être.
Très hâte, ouais.
Oui,
parce que on a hâte parce que aussi juste le fait de pouvoir jouer ailleurs et avoir un public différent aussi c'est toujours cool, c'est toujours bien et puis ouais carrément hâte de ouf.
Bon, côté scène rock française, quels sont les groupes qui ont comme vous cette faculté à exceller dans le rock progressif expérimental et que vous souhaiteriez mettre en avant?
À Rouen?
À Rouen ou ailleurs dans l'Hexagone?
Oh, je sais pas. J'ai pas là sur le coup là pour l'instant. Bah le rock prog, j'en connais pas beaucoup. Hein.
Oui, c'est pour ça que c'est difficile.
Ah oui. De rock progressif, j'en connais même pas. D'ailleurs, je me faisais la réflexion tout à l'heure. Je sais pas. Je pourrais pas te dire.
Pas évident de composer finalement un plateau.
Bah comme ça là dans l'omblée là je pourrais pas te dire.
Pas si évident.
Pardon.
Non, non mais pardon pour ceux, bon il y a certains qui existent. Hein, et donc que ça soit les artistes solo ou groupe, c'est pareil dans ce style de musique. Enfin ce style, sachant que dans les titres que vous avez, on part effectivement un peu dans tous les sens. Donc ça peut on touche à ceci, on touche à cela. Voilà. Mais la manière dont vous le faites, on la retrouve pas forcément ailleurs. Et c'est ce qui fait justement le côté atypique de votre groupe. Hein. C'est ça aussi qui attire le regard et l'oreille surtout. Hein. Si vous, effectivement, vous deviez mettre en avant finalement d'autres groupes, enfin si toi tu devais mettre en avant d'autres groupes qui ne sont pas identiques à ce que vous faites, ce serait quel groupe? Alors soit en scène locale ou d'autres?
Bah franchement moi j'ai un groupe que j'adore, c'est des copains, c'est Gogo Juice, hein, j'adore Gogo. Et c'est pas nous voilà c'est compliqué etc mais c'est compliqué dans une certaine manière je veux dire ce qu'ils font mais je veux dire ça reste accessible plus que nous pas du tout la même chose mais je trouve qu'il y a une énergie il y a une charisme dans ce qu'ils font j'adore ce qu'ils font j'ai toujours suivi je trouve que c'est composé super bien et je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur style leur univers même enfin. Et j'adore ce groupe et du coup aller écouter Gogo Juice parce que c'est trop bien et ils font des morceaux qui sont trop bien et j'ai beaucoup d'admiration pour eux.
On leur fait des gros bisous.
Oui, évidemment.
Si on remplaçait Pain par Dream, sans que cela soit le titre du prochain EP de Daily Last Dance, ça serait Dream Ometer. Dans cette échelle des rêves, plus précisément, quel serait le groupe rêvé à la renommée internationale ou nationale qui pourrait réaliser votre rêve de vous emmener en tournée?
Bah en vrai, Supertramp, mais bon, c'est un peu mort là. Un rêve, oui, ça serait ça. Hein. Je veux dire, c'est classique, c'est bateau peut-être, c'est pas original, mais je pense que c'est le groupe pour moi qui la définition du talent hein, genre ce qu'ils font c'est trop bien tous leurs morceaux sont des tubes c'est à la fois simple à la fois c'est hyper compliqué quand on entend certains morceaux on se dit ouais, c'est de la pop c'est simple etc mais en fait il y a énormément de construction derrière mélodique harmonique etc et c'est le début aussi c'est la plus grosse influence du groupe je me suis pas dit en plus quand j'ai composé, quand j'ai commencé à composer dans Daily Last, je me suis pas dit tiens je vais faire du Supertramp. C'est Clément qui m'a dit ça ressemble à Supertramp et du coup j'ai plus écouté. Je connaissais déjà, j'ai vraiment plus écouté ce groupe et c'est un peu la même manière de je trouve d'aborder la musique que nous,
ouais.
Plus ou moins. Alors, évidemment il y a quand même un gouffre, hein, mais je veux dire c'est pas pareil encore, mais je veux dire. Il y a beaucoup énormément de changements dans ce qu'ils font et tout, mais c'est le même espèce de même circuit aussi sinueux et super bien amené quoi. J'adore ce groupe, donc oui, Supertramp, même si c'est pas très original et que c'est surtout impossible de tourner avec eux maintenant du coup. Mais ça aurait été un rêve, oui, c'est un rêve.
Ça aurait été un rêve. Mais bon, c'est pas possible, mais on sait jamais avec les progrès de la science, pourquoi pas. Hein. Donc avec les progrès de la musicologie, on va dire.
Oui, oui, oui.
Bon, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Et de partager justement cette impression, notamment sur ce premier EP qui vient de sortir donc fin avril, en espérant qu'il y en a d'autres, mais surtout vous voir sur scène. Donc j'invite effectivement les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à découvrir votre groupe sur scène, puisqu'on prend une claque littéralement. Vous avez vraiment un sérieux, une application qui fait que on en ressort passionné par les instruments qu'on a écoutés. Et quelque part on vous fait aimer la musique, hein, clairement. Bon, je vous fais de très gros bisous, comme le veut la tradition se restless. Bisous à tous les quatre et à tous les cinq, puisque Constance n'est pas très loin. Et je te remercie en tout cas de nous avoir accordé ce temps pour cette interview.
Merci à toi.
À bientôt.
Un plaisir. À bientôt.
Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.